Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare.
Le podcast où on parle musique, pédagogie,
passion
et guitare.
Animé par deux passionnés,
Cyril Michaud
et moi-même, Sébastien Zunino. Hola chicos, ¿qué tal? Salut Cyril.
Hey, salut, ¿qué tal les amis? En forme?
Bah écoute, ouais, ça va. Moi, j'espère que les gens vont bien du coup, ouais.
Toujours
vivant.
Oui, c'est ça. Toujours vivant également.
Voilà.
Et là, belle journée. Tu vois, là, je suis de super bonne humeur. Bah, déjà, on enregistre un podcast, donc forcément, c'est une belle journée. Et c'était mon premier pas en terrasse aujourd'hui. Vu qu'on a, franchement, on a un soleil de fou là, à la maison. T'as l'impression d'être en plein mois de juillet. Donc, du coup, voilà, j'ai mangé tranquille sur ma terrasse. J'ai bossé un peu avec l'ordi sur la terrasse, composé un petit peu, puis voilà, on enchaîne avec le podcast. Donc c'est vraiment super journée.
Écoute, t'as bien de la chance parce que moi, ça fait un mois que... Bon, moi, je vis dans un endroit ensoleillé, tu vois, d'habitude, mais là, ouais. Ça fait un mois que j'ai un temps vraiment pourri, quoi. Ah. Bon, j'ai quand même 14-15 degrés avec, malgré la pluie et tout, tu vois, mais bon, il fait quand même mauvais depuis un mois, là.
Ouais, voilà. Bon, après en Espagne, il fait quand même beau la majeure partie du temps. Donc,
oui,
ça,
voilà,
là, ça compense.
Ça. Oui, ça compense, ouais.
Donc, alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Bah, écoute, moi, je pensais qu'on pourrait aborder le fait que de trop pratiquer, ça tue la créativité.
Ouais. Donc, moi, si tu veux, le sujet donc, m'intéresse pas mal parce qu'en ce moment, je pratique pas, justement. Ça fait... D'ailleurs, j'arrive même plus à me souvenir de la dernière fois que j'ai touché ma guitare, c'est pour te dire. Ça doit faire au moins deux bonnes semaines, peut-être que j'ai... Oh, peut-être pas, parce que... ouais, quasiment 15 jours que je pratique pas. Et en fait, il y a déjà un premier point, tu vois, que je trouve intéressant, c'est que quand je pratique pas pendant une certaine durée comme ça, c'est pas forcément parce que j'en ai pas envie, c'est parce que voilà, vu que je fais plein de projets, moi je suis assez monobloc et j'aime bien me concentrer sur des tâches précises. Puis en ce moment, je suis à fond dans la composition pour une de mes chaînes YouTube, j'ai bouclé un album et je suis à fond bloqué là-dessus. Je fais du montage vidéo, je fais plein de trucs. Donc en fait, j'ai pas trop l'esprit disponible pour la guitare. Tu vois, j'ai pas envie de dévier de. Tant que j'ai de l'énergie pour un truc, j'ai tendance à me consacrer vraiment à ça jusqu'à m'épuiser dessus et après passer sur un autre. Et du coup, l'effet que ça me fait à chaque fois, j'ai toujours des phases comme ça où je ne vais pas pratiquer pendant une semaine ou deux. Et après, quand je reprends la guitare, j'ai une super grande motivation et un plaisir vraiment énorme, beaucoup plus que quand tu vois, je pratique tous les jours, où ça devient un peu plus routinier, où tu prends la guitare parce qu'il faut prendre la guitare, mais pas toujours avec la motivation et le plaisir de le faire. Et là, vraiment... dans ces moments-là, effectivement, moi, j'ai des nouvelles idées qui surgissent. Ouais, la dernière fois que j'ai pris ma guitare, par exemple, j'ai eu une petite phase où je bossais avec l'accès fixe pour chercher des nouveaux sons, utiliser un peu les octaveurs que j'ai jamais trop eu l'occasion d'expérimenter, essayer de bidouiller des sons un peu plus complexes en termes d'effets. Donc, j'ai eu une phase comme ça et je pense que, tu vois, c'est parce que pendant un temps, j'ai fait une pause. Sur la guitare, et j'ai beaucoup composé de musique électro, de musique, de musique ambiante, etc. Et j'étais beaucoup dans le travail du son, la recherche d'effets. Donc je faisais énormément de mixage, énormément de travail de tu vois, chaque son de synthé, bidouillé avec des chorus, des distos, des différents synthétiseurs mélangés, etc. Donc je faisais beaucoup de la recherche sonore finalement. Et du coup, quand j'ai repris la guitare, ben, j'avais encore un petit peu, si tu veux, un peu comme une réverbération, tu vois, qui va laisser une traînée. Ben, en fait, tout le travail que j'ai fait de prod, ça m'a laissé un peu une traînée dans l'esprit, qui a fait que quand j'ai pris la guitare, j'étais encore un peu dans le mode état d'esprit, mixage, recherche de son, sound design, etc. Et du coup, sur la guitare, j'ai pas eu envie de pratiquer la guitare pour pratiquer la guitare, mais j'ai eu envie de fabriquer du son, tu vois. Et donc, j'ai commencé à fouiller un peu de trois effets. Et en fait, je suis vachement content de ça parce que ça me donne de nouvelles idées. Parce que c'est vrai que des fois, quand tu vas jouer avec un son, on va dire avec une logique à la ACDC, genre tu branches dans l'ampli et tu joues vraiment sans te prendre trop la tête avec une chaîne d'effets complexe, etc.
Drive,
tu vas pas avoir les mêmes feelings que si tu as vraiment une chaîne vachement complexe où tu te mets une, je sais pas, tu te mets des chorus, genre plusieurs délais, une whammy là au milieu, un octaveur, plusieurs pédales disto, etc., une wah-wah, et toi que tu fais un chaînage vachement bizarre ou que tu n'as pas l'habitude d'utiliser, ça te donne des nouvelles idées de
Et
riff,
oui,
des nouvelles
le
idées
son
de
t'inspire en
progression
fait.
d'accord. Voilà, le son t'inspire des plans qui pourraient pas exister si tu n'avais pas ce chaînage-là. Bah, toi, je prends genre l'exemple le plus fameux pour moi, c'est Tom Morello, par exemple. Des tonnes de riffs de Rage Against the Machine, ils n'existent que par le son, en fait. Par vraiment cet enchaînement particulier de pédales, de réglages qu'il va faire, qui vont lui avoir inspiré tel ou tel son. Et je trouve ça vachement inspirant parce que, du coup, dans les moments où là, j'arrive au bout de mon album de 100 morceaux, il m'en reste deux à faire, et je suis en train de galérer à finir. Et du coup, là, voilà, j'avais trouvé cette idée de partir vraiment dans l'électro. Et c'est le fait d'avoir arrêté de pratiquer, parce que au bout d'un moment, tu vois, je saturais en termes d'idées, malgré toutes les combinaisons possibles que tu peux faire de notes, de rythmes, etc. Au bout d'un moment, j'avais l'impression c'est pas de pas arriver à recomposer des nouvelles choses, que j'y arrive toujours, mais c'est pas ce sentiment de fraîcheur, tu vois. Te dire, ouais, mais non, ça, tu l'as déjà fait. Ah, ça, tu tombes un peu dans les trucs que tu as l'habitude de faire. Ça, c'est un peu facile. Ça, toi, tu retombes dans... parce que tu es un peu fatigué d'avoir fait toujours un peu beaucoup de recherches à ce niveau-là. Et au bout d'un moment, c'est humain, tu vois, tu tombes un peu dans tes facilités. Et là, le fait de basculer dans l'aspect sonore, ça ouvre des nouvelles portes. Et du coup, ça m'inspire à nouveau. Et ça, je pense que si j'avais pratiqué régulièrement tous les jours, bah, je pense qu'au bout d'un moment, ça aurait été de pire en pire finalement. Et ça me, tu vois, je me serais dit, putain, j'arrive à rien, j'arrive à rien. Et tous les jours, c'est de pire en pire parce que tu arrives toujours à rien. Donc, tu accumules de la frustration, ça te gave. Et donc, des fois, c'est presque mieux, je trouve, de faire une pause, de faire autre chose. Et je crois qu'on en avait déjà parlé dans un podcast. Des fois, le fait de faire des activités artistiques différentes de la musique, ça te, après, rétroactivement, ça t'inspire dans la musique. Et
Oui,
ça, c'est clair. Moi, ça me le fait tout le temps. En tout cas, personnellement,
c'est
ça
une
marche
évidence.
à 100%, ça. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup. Donc, ça c'est mon expérience actuelle, toi, du morcelage de pratique. Voilà.
Oui, donc oui, c'est oui le fait, oui, moi bah, après je suis d'accord. Pardon Siri, non c'est Siri. Merci Siri, j'ai posé mon téléphone et j'ai
On a un invité dans le
malencontreusement.
podcast.
J'ai malencontreusement appuyé sur les tétons de Siri, quoi, tu vois. Tu vois?
Alors, que pense-t-elle du fait de trop pratiquer, à ton avis?
Ah, je ne sais pas, j'ose pas lui demander, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que, bon, déjà, il y a le fait, c'est vrai que le son t'inspire. Donc, le fait est que quand tu as des nouvelles pédales, que tu as du nouveau matériel, etc., souvent, ça peut avoir une incidence sur ton jeu. C'est
Ouais.
vrai, hein.
Ouais.
Le fait, par exemple, je sais que il y a des gens, bon, ça me le fait moins, mais non, mais c'est vrai qu'à une époque, j'aimais bien enregistrer avec selon ce que je devais jouer avec les effets. Et après, je me suis habitué à enregistrer dry pour en fait rajouter les effets en post-mixage.
Ouais.
Donc bon, hormis la distorsion, hein, pour tout ce qui est reverb, etc. Sauf bon, truc cas exceptionnel quand il y a un chorus, puisque des fois j'utilise le chorus. Ou les reverb Strymon, bon bref, parce que c'est le son de la pédale que je veux plutôt que le son de l'effet en fait. Mais c'est vrai que quand je rajoute des delays et des reverb, souvent c'est en post-production, donc pour que je puisse mixer. Alors pour les gens,
Oui.
c'est-à-dire que vous enregistrez la guitare sans rien, voilà, juste avec le son brut de la guitare avec du préampli et de la simulation de haut-parleur, on va dire. Et vous rajoutez la reverb et le delay après sur une piste auxiliaire pour pouvoir équaliser et retoucher la reverb et le delay à votre guise dans le mixage. Voilà, donc pour que ce soit plus clair. Donc il est vrai que le son t'inspire. Après, je me suis habitué à ne plus jouer avec la reverb. Par exemple, quand j'enregistre un chorus et si je rajoute une reverb après, c'est vrai que voilà, je me suis habitué quand même à le faire, mais c'est vrai que le son t'inspire énormément. Par exemple, de trouver un riff rock, si t'es pas en distorsion, pour donner une image très concrète,
Oui.
c'est moins inspirant que quand tu mets la grosse distorsion, etc., pour faire
C'est clair.
un riff.
Mais tu vois ce que tu dis par rapport à l'enregistrement, c'est souvent que Moi, quand j'enregistre, je mets un son témoin qui va pas être celui forcément que je vais faire. C'est-à-dire, soit je fais du reamping avec avec l'accès fixe, soit
Toi,
effectivement pour des.
tu es juste pour question technique, puisque tous les possesseurs d'accès fixe et ce type de format Helix, Kemper, etc., on peut faire la méthode, ce qui est dite des quatre câbles. Donc, c'est-à-dire que le fait est que quand vous rentrez dans votre carte son, vous avez le son du accès fixe, mais le son enregistré est en dry, et après, vous pouvez retoucher les effets dans votre
Ouais.
enregistreur directement sur le accès fixe. Donc, tu enregistres comme ça, c'est ça que tu veux dire?
Non, j'utilise pas ça. Mais disons que j'enregistre juste mon son brut. Mais en même temps, sur une autre piste, même si elle me sert à rien, j'ai mon son témoin qui me sert juste parce qu'il m'inspire, tu vois. Il m'inspire pour ce que j'ai besoin de jouer. Tu vois, genre, si j'ai besoin de jouer un truc un peu tranquille, un peu ambiante, etc., mais que j'enregistre avec un son standard qui n'a rien à voir, bah, tu vas pas avoir la même intention dans ce que tu vas jouer. Ça rejoint ce que tu disais. Et du coup, là, je vais pas hésiter des fois à mettre des trucs avec des réverbs de taré, des gros délais, etc. Mais à ne pas les utiliser dans le mix final, parce que le problème, c'est qu'après, si tu as envie de faire le moindre changement dans ta réverb, dans ton délai, tu as envie de tester des trucs, bah, si c'est enregistré, tu es foutu, tu peux plus revenir dessus.
Voilà, c'est
Donc
ça.
moi, j'enregistre juste la piste dry. Et j'enregistre quand même ma piste témoin pour avoir une idée de l'ambiance que je souhaite. Et après, je retravaille le son
Oui, directement sur
derrière,
sur
quoi. Sur la
Ableton.
piste, voilà.
Ouais. Donc toi tu utilises, bon pour les gens qui. Toi tu utilises Ableton et moi j'utilise Logic Pro X.
Alors, du coup, j'enregistre sur Reaper, en fait, la guitare. Le
D'accord.
Reaper, enfin, la guitare, je m'en sers que sur Reaper, parce que je sais pas pourquoi, mais tout ce qui est enregistrement, je préfère 1000 fois l'interface de Reaper que celle d'Ableton, que je déteste pour l'enregistrement. Mais tu vois, c'est un feeling perso. Mais par contre, les prods, je les fais toujours sur Ableton. Donc,
D'accord.
j'enregistre ma guitare dans Reaper,
Tu
je fais mon
l'exportes?
mixage, etc. J'exporte ensuite ma piste, et ensuite, je bosse dans Ableton pour le reste.
D'accord. C'est vrai que ouais, oui, c'est vrai qu'après ça c'est. Moi je sais que par exemple je suis tellement habitué à Logic Pro que bon j'ai appris sur Cubase, mais bon c'est vrai que Logic Pro maintenant je le connais tellement bien, je
Bah oui, après,
pense.
il faut rester sur l'outil sur lequel on est à l'aise.
Je pense que je le connais au moins à 50% facile, hein, ce qui est pas négligeable sur un.
Ouais, ça c'est clair, vu toutes les fonctions qu'il y a dans
Sur.
un
Ouais, voilà.
séquenceur.
Voilà. Donc c'est vrai que bon, le son inspire, et c'est vrai comme tu le disais, on en avait parlé, je me souviens, dans un podcast, c'est le fait que tu peux pas, quand tu es sans. Enfin, quand tu es un artiste, quand je dis artiste, bon, moi je me considère pas réellement comme un artiste, moi. Mais le truc, c'est que c'est vrai que dans la création, en tout cas, tout ce qui est satellite de ta discipline, à mon avis, c'est 80% de l'inspiration. C'est-à-dire que si jamais tu es un gaga qui pratique ses heures, ses gammes chez lui, sans écouter de musique, ne serait-ce que même écouter de la musique, sans lire, sans regarder un film, sans voyager, sans sortir, sans mettre le nez dehors, sans voir personne, puisque l'interaction humaine, je sais de quoi je parle, puisque bon moi c'est vrai que là où je vis, les gens en fait, moi je suis la seule personne que je connais qui habite là où je vis depuis 2 ans là, tu vois, puisqu'en fait les gens ils restent très peu de temps, donc au final t'as pas le temps vraiment de nouer d'amitié, etc. etc. Et finalement j'ai pas vrai quand je suis ici en Espagne, j'ai pas vraiment beaucoup de contacts, tu vois. J'ai un peu des amis que je vois de temps en temps, des gens qui sont suisses, mais tu vois, on se voit pas, tu vois, une fois par mois, quoi. Tu vois, c'est une fois tous les 3 mois qu'on se voit, tu vois. Et c'est vrai que, après, c'est ce qu'on disait, tu peux pas être une machine à pratiquer. Moi, c'est vrai que je l'ai beaucoup fait parce que tu as envie de passer des caps, parce que tu as envie de. Parce que tu sais qu'à un moment donné, au niveau de la pratique, si jamais à un moment donné, il n'y a pas une force qui va au-delà de toi, en fait, puisqu'on le sait avec à nos âges, si tu veux vraiment progresser, il faut forcer, quoi. Il faut casser le plafond, en fait. Hein, à un moment donné, tu es obligé. Donc, c'est vrai que. Quand tu pratiques trop, que tu es trop une machine à pratiquer avec ton clic, ou quand tu fais des relevés, ou etc., etc., tu te rends compte que la créativité n'est pas la même que quand tu n'as pas touché la guitare depuis 2 semaines, que tu reviens de vacances, que tu as lu 3 ou 4 bouquins, et que tu te mets à faire, voilà, tu te mets à faire un album. Sachant que je peux parler en connaissance de cause, parce que bon, 80% de mon temps aujourd'hui, c'est créer des morceaux. Voilà, que ce soit pour moi, mes chaînes, ou que ce soit pour les commandes. Voilà, c'est clairement c'est de la création de morceaux ou de l'arrangement ou des trucs qui sont en rapport avec la créativité quoi. Donc il est évident que par exemple en ce moment, tu vois, j'ai fait deux albums, bon plus toutes les commandes, mais bon les commandes c'est pas vraiment de la créativité parce que des fois les gens m'envoient leurs morceaux et si tu veux
Et
moi
tu te bases sur quelque chose d'existant,
je
quoi.
me base sur quelque chose d'existant et en plus il y a un cahier des charges. Les gens ils veulent pas à la one again, si tu veux, ils veulent un peu ta couleur, mais eux ils ont une idée précise de ce qu'ils veulent et ils t'envoient des exemples, etc. etc. Donc je trouve que j'ai été vachement créatif en janvier, février vachement moins et mars aussi c'est laborieux quoi. Niveau créativité, c'est-à-dire que ça coule pas de source, si tu veux, je suis obligé de forcer la créativité un petit peu, tu vois. Donc c'est et pourtant et je me suis arrêté de pratiquer, c'est-à-dire que là comme je sens que ma créativité elle est un peu comment dirais-je un peu émiettée, je dirais un peu voilà un petit peu sclérosée, je pratique pas quoi, je me force à pas pratiquer, à faire autre chose, tu vois, je lis plus ou je me force à moins et c'est vrai que je constate que ben tu pratiques moins donc quand tu au lieu de tu es plus créatif, quoi. Voilà, c'est clair, tu as plus d'idées, ne serait-ce que déjà, le fait que tu n'aies pas la guitare dans les mains te rend plus créatif parce que les meilleures idées, finalement, tu les trouves en marchant, en faisant autre chose. Enfin, en tout cas, moi, pour moi, tu vois.
Bah, c'est vrai que t'es, ça, je l'avais déjà dit aussi, et c'est quelque chose qui se vérifie, c'est que quand tu as ton instrument dans les mains, le problème qu'il y a, c'est que tu es tout de suite conditionné par ce que tu sais jouer sur l'instrument, par le côté idiomatique de l'instrument, c'est-à-dire idiomatique, ça veut dire en gros ce qui est ce qui est naturellement jouable sur l'instrument. Du coup, tu vas sortir les plans que tu as l'habitude de faire, tu vas aller sur les gammes que tu as l'habitude d'utiliser, les progressions que tu aimes bien, etc. Tu vas avoir des conditionnements forcément. Que si tu réfléchis à ta musique en dehors de ton instrument, c'est là où tu vas sortir des contraintes que t'impose ton instrument et tu vas pouvoir des fois trouver des idées que tu n'aurais pas eu avec ton instrument. Puis après, quand tu vas prendre la guitare pour faire cette idée, tu vas dire, OK, alors maintenant, comment je vais jouer ça sur mon instrument? Tu vois, c'est un peu la même logique que quand tu prends une partition pour piano, puis que tu essayes de l'arranger pour une guitare, tu te dis, alors maintenant, comment je vais me débrouiller pour mettre ça pour guitare? Ben, c'est la même logique. Et c'est important, je trouve, de faire ce travail aussi des fois, d'être vraiment sans guitare pour renouveler un peu les idées, parce que au bout d'un moment, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple quand je bossais sur mon album où au bout d'un moment j'avais le sentiment de tourner en rond quand j'étais sur la guitare. C'est le fait d'avoir lâché la guitare finalement qui m'a donné nouvelles idées et de bosser sur des compos électro, donc complètement rien à voir avec la guitare. Donc là, clairement, après, voilà, je me suis dit, bah tiens, ces sonorités-là, maintenant je vais envie de rechercher ça sur la guitare. Un des trucs là que je suis en train de faire en ce moment, je me suis amusé sur une de mes, bah, sur ma dernière backing track. Je suis parti en mode chip tune. Donc chip tune, pour ceux qui connaissent pas, c'est les musiques inspirées des sonorités de jeux vidéo des années 80-90. Donc en fait, on réutilise exactement les sonorités des puces sonores des consoles, genre Super Nintendo, Game Boy, Master System, Commodore 64, Amiga, enfin tous ces trucs-là. Et on fait des musiques qui ont vraiment ces sonorités-là. Et en ce moment, j'ai envie justement de composer cette fois un truc à la guitare, donc que je vais jouer à la guitare, mais qui sonne comme ça. Donc, ce qui est bien, c'est que dans l'accès fixe, il y a le, comment il s'appelle déjà ce bloc? Tu as un bloc qui contient un beat crusher. Je sais plus comment s'appelle
Bah
le bloc. C'est
c'est distorsion.
Ouais, je sais pas s'il est en... je sais
Si,
plus,
si.
c'est pas un beat crusher direct, mais c'est un truc qui est à l'intérieur d'un bloc, enfin peu importe pour ceux qui n'ont pas l'accès fixe. Mais en tout cas, c'est un bloc où il y a un beat crusher que j'avais déjà utilisé pour un concert, ça donnait des sons assez sympas. Puis c'est vrai que quand tu cumules ça avec les blocs de synth, donc de synthé, les synths de l'accès fixe, où tu peux mettre du coup des formes d'ondes, genre triangle, rectangle, sinusoïde, etc., ou voire noise. En gros, c'est les formes d'ondes qui sont utilisées dans les. Qui était utilisé dans les jeux vidéo hein, dans les années 90, 80. Du coup, tu peux avoir des sonorités un petit peu nouvelles. Donc là, tu vois, je vais expérimenter ça en plus de ce que je teste avec les octaveurs. Et là, voilà, ça m'est venu du fait d'avoir lâché la guitare et d'être parti dans un autre domaine qui n'a rien à voir, quoi. Et en plus, un style musical où la guitare n'existe même pas. Parce que tu vois, la musique chiptune, c'est purement électro et c'est purement des sons type jeu vidéo. Donc là-dedans, la guitare, elle n'a aucune place réelle en fait dans l'historique de ce genre musical, quoi. Donc c'est d'autant plus intéressant.
Oui, c'est intéressant. Ouais. C'est vrai que
Ouais.
c'est la recherche dans les nouvelles textures. Parce que bon, c'est vrai que moi, je t'avais dit, j'ai un peu des sons de chiptune. C'est vrai que ouais, c'est intéressant, quoi. Et puis les mecs, ils étaient créatifs parce que bon, ils
Ben
avaient le
c'est
droit
clair.
que à ça, quoi, pour faire du son. Ils ont fait quand même des musiques super cool, quoi. Les Zelda, Super Mario, Tetris et tout. C'est ça le
Bah,
chiptune,
c'est
en fait.
clair. Bah, en fait, quand tu regardes parce que je connais un peu le sujet, ça fait partie des trucs que j'enseigne à l'université, tout ce qui est musique de jeux vidéo. Et tu vois, à l'époque, dans les années 80-90, donc ils avaient les puces sonores qui permettaient de faire, donc en gros, des blips, des blops, etc. Et donc, c'était des puissances limitées. Et surtout, en termes de polyphonie, tu avais des contraintes qui étaient monstrueuses, c'est-à-dire que c'était monophonique. Donc, si tu voulais faire des accords, fallait tricher. Et t'avais typiquement ces sonorités très, très typiques des jeux vidéo de ces périodes-là. C'est les effets d'arpèges ultra rapides. Vu qu'ils n'avaient pas la possibilité de faire sonner, par exemple, de faire une triade avec trois notes simultanées, mais ils étaient obligés de faire un arpège ultra rapide avec genre des triples, quadruples ou quintuples ou sextuples croches. Des trucs tellement rapides que tu vas même pas les percevoir comme vraiment un arpège. À l'audition, ça va sonner presque comme des accords, mais tu auras une légère sonorité quand même arpégée, qui a vraiment une couleur typique de ce genre musical et de jeux vidéo, quoi. Et ça, c'était une façon de contourner le fait de ne pas pouvoir faire des accords. Bah, du coup, ils faisaient de l'arpège ultra rapide. Ça faisait partie des stratégies. Et aussi le fait de ne pas pouvoir faire de délai, de réverb. Il y a des techniques qui existent pour simuler de la réverb. Par exemple, ça, je l'ai testé dans une prod récente où, en gros, genre, t'écris un arpège super rapide, genre, je sais pas, avec des triples croches ou même des doubles croches si le tempo est assez rapide. Que tu fais, tu dupliques à l'identique ton pattern et tu le décales d'une double croche et tu baisses la vélocité, c'est-à-dire la nuance,
Oui.
en gros, la vélocité de moitié. Et en fait, ça donne un effet d'écho qui simule un effet de délai. Et après, si tu le dupliques plusieurs fois, en baissant à chaque fois la vélocité de moitié, tu peux obtenir une traînée comme ça de simuler le feedback d'un délai. Et l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus propre qu'un vrai délai, parce que le vrai délai, t'as pas vraiment un contrôle sur le moment exact où il s'arrête, parce que quand tu mets le feedback, le principe, à part si tu mets un délai de type slapback, qui a une seule répétition, là, tu as un contrôle propre, mais si tu mets un délai qui a un feedback un peu plus long avec... Tu peux pas lui dire de se couper à la fin de la troisième ou de la sixième ou de la cinquième parce que tu as le volume qui descend graduellement. Donc il y aura toujours un petit reste quand même de répétition. Donc c'est jamais totalement propre à moins d'automatiser le fait de couper le volume du délai, etc. Que si tu fais avec des techniques comme ça, tu pars un contrôle ultra propre et parfait en termes de répétition. Et ça, quand tu commences à expérimenter avec ça marche trop bien. J'avais fait un test où par exemple la même chose, mais... Pour tester un peu des effets shimmer, toi, dupliquer le petit arpège, le décaler d'une double croche et le monter d'une octave, ça te crée du coup un effet de brillance comme ça où t'as ton arpège, t'as l'impression que le délai, du coup, il est octavien, un peu comme tu aurais dans une reverb shimmers. Donc, c'est tout des techniques comme ça qu'ils utilisaient pour sortir des. Et en plus, même les percussions, par exemple, tu vois, ils faisaient ça avec du bruit blanc, du noise. Donc, ils simulaient, par exemple, le Charleston. Finalement, c'est juste un bruit blanc qui est un petit peu filtré pour virer les graves, mais qui est surtout au niveau de sa résonance, qui est hyper cuté. C'est-à-dire qu'il laisse juste passer l'attaque du bruit. Et ensuite, tu as une chute de volume ultra rapide. Et. En fait, quand tu joues juste sur ce paramètre, ça te permet de simuler un charlet fermé ou un charlet ouvert. Tu vois, par exemple, même les caisses claires, c'est fait avec du bruit blanc. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Les kicks, tu peux le fabriquer à 100% avec des sinusoïdes. Ça, je fais souvent fabriquer mes propres kicks. Et tout ça, en fait, tu vois, quand tu explores des mondes comme ça qui étaient ultra limités, en fait, tu apprends à fabriquer des sons. Vraiment de zéro, c'est vachement enrichissant. Et après, à la guitare, bah, c'est vachement enrichissant aussi parce que C'est vachement plaisant après de fabriquer ses propres sons de guitare à partir de zéro plutôt que prendre les presets que tu as dans tes multi-effets, même si des fois c'est bien de prendre des presets. Moi j'en prends des fois, mais j'avoue que j'ai plutôt tendance, franchement 9 fois sur 10. Je pense pas que toi ça te le fait, mais moi sur l'accès fixe c'est tout le temps le cas. Je me dis, allez, je vais prendre un preset, je commence à balayer les presets, je joue, etc. Et au bout d'un moment, systématiquement, tu peux être sûr que 10 minutes après, je me retrouve dans un preset vide en train de faire mon preset parce que je me dis, ah, ça me fait quand même chier d'utiliser un preset alors que je suis capable d'en faire un de zéro.
Après, non, moi, c'est vrai que le accès fixe, c'est vrai, je m'en sers, en fait, c'est ce que je disais à, c'est ce que je dis à des amis et tout, c'est vrai que je m'en sers très très peu, en fait. Je me sers, c'est vrai que quand le 2, il a lâché, comment dirais-je, j'ai recommandé le 3, parce que je ne me suis pas posé la question, parce que le matériel, si jamais le 2 avait été disponible, j'aurais repris un 2, c'est simplement que moi, j'ai pas envie de perdre mon temps, parce que j'ai tellement peu de temps.
Ah, puis au moins tu bénéficies de la mise à jour qualitative quoi du 3, c'est toujours ça de prix.
Ouais, c'est
C'était
vrai,
l'occasion.
mais au début, j'étais tellement habitué au 2 que j'ai eu du mal à me
Oui.
faire au 3, en fait. C'est
Ouais.
un peu le truc. Après, bon, quand là, je verrai de passer peut-être sur un système un peu plus analogique avec des têtes d'ampli et en fait un truc genre captor de Two Notes ou bref, pour avoir un. Mais c'est vrai que, non, moi, par contre, j'utilise très très peu de sons. En fait, j'utilise pratiquement toujours les mêmes simulateurs de haut-parleurs, puisque j'utilise que les simulateurs de haut-parleurs finalement. Et après, je fais tous mes sons avec les pédales, le préampli et les effets post-production. Donc, c'est vrai que
Ah. Après, c'est vrai que les presets, ça permet quand même d'avoir de l'efficacité, notamment toi qui fais beaucoup de prod. C'est vrai que s'il fallait faire tous les presets de zéro à chaque fois, c'est une perte de temps monstrueuse. Donc, c'est vrai que des fois, avoir quelques presets où tu sais que tu peux compter dessus, tu sais comment ils sonnent, tu sais comment ça réagit avec ton jeu, avec ton matos, avec ta guitare, etc., ça fait gagner un temps fou, quoi. C'est beaucoup plus efficace.
Oui, voilà, c'est surtout ouais, pour être efficace, parce qu'en plus, ouais, non, c'est vrai que j'ai. Puis c'est vrai que je suis pas du tout le genre de gars à passer des heures et à
Ouais,
chercher son son.
après c'est des questions effectivement de personnalité. Moi c'est vrai que ça m'éclate de faire du sound design. Donc des fois je vais perdre 1 heure à faire un son que j'utiliserai jamais. Je me dis ouais il est cool ce son, puis finalement j'en ai jamais l'utilité.
Ouais, bah en fait, ouais,
Je
c'est
l'utilise
ça.
jamais, mais en même temps tu vois ce qui est cool là-dedans c'est que t'apprends en fait. C'est jamais du temps perdu en réalité. À chaque fois que j'ai fait des sons j'ai toujours appris. Mais c'est pareil dans l'électro quand je fais du sound design. Des fois je vais faire des sons de boutons pour des interfaces de jeu. Je vais recréer des sons de kick, je vais recréer. Ah bah, tu vois, dernièrement, là, pour une de mes chaînes, j'ai fait un album inspiré du jeu Silent Hill. J'ai recréé de zéro le son de la sirène typique de Silent Hill, le son de la radio qui crépite, alors que j'aurais pu prendre un sample du jeu, le foutre dans ma musique et basta, quoi. Mais je me suis fait chier à recréer le sample de zéro. Mais du coup, j'ai appris vachement. J'ai appris, bah voilà, que maintenant je sais faire un son de sirène, maintenant je sais faire un son de radio qui crépite. Voilà, j'ai appris finalement. En fait, c'est ça l'intérêt. J'en discutais avec un pote qui est illustrateur, justement, parce qu'en ce moment, bon, je bascule un peu dans du lifestyle, mais je suis en train d'avoir à nouveau envie de me remettre à la sculpture, à faire des dioramas, d'utiliser de la résine époxy là, pour faire des trucs aquatiques là, avec des bestioles,
Ah oui, j'ai déjà vu
faire des
des
petites
chaînes
maquettes, des trucs
YouTube.
comme ça.
Ah
Ouais, il
ouais,
y a des chaînes YouTube entièrement consacrées à ça, et moi j'ai toujours adoré ça. Si j'avais pas fait de musique, toi quand j'étais ado, je voulais faire des masques en latex pour les films d'horreur, c'était mon trip, et j'aurais fait vraiment de la sculpture, j'aurais passé ma vie à ça,
ah, t'aurais
j'aurais
peut-être fait
été
fortune
professionnellement là-dedans.
si t'avais moulé des cagoules en latex avec juste la fermeture éclair
Oui.
à la bouche.
C'est clair.
Et des boules rouges.
Non mais c'est clair,
Ah ouais.
il est pas trop tard pour se reconvertir.
Ah mais tu vas peut-être faire fortune, hein, qui sait?
Ouais, qui sait. Et du coup, alors attends, je disais quoi du coup?
Que tu t'es remis dans la
Ouais,
fable,
voilà,
ouais.
j'en discutais avec un pote qui est illustrateur, donc je lui demandais des conseils pour la sculpture, etc. Puis pour pour faire aussi des effets un peu rétro en vidéo, genre des effets VHS, parce que là je suis en train de mettre en ligne du coup les morceaux de cet album de Silent Hill, et du coup je voulais que la vidéo que j'ai montée hier, je voulais qu'elle ait un look vintage, tu vois, genre vieille VHS dégueulasse avec des glitches, avec une couleur un peu dégueulasse, le ratio 4 tiers, le petit flou, etc. Donc du
À la
coup j'ai
Blair
passé.
Witch, un peu.
Ouais, voilà. J'ai passé genre 3 jours à étudier des tutos, etc., pour voir comment refaire ça, alors que j'aurais très bien pu acheter un preset tout fait pour Premiere ou After Effects, le balancer dessus, et puis ça m'aurait pris 5 minutes et c'était réglé, ou alors au pire en trouver un gratuit, ou etc. Mais je me suis fait chier pendant 3 jours à apprendre à faire ça, ce qui fait que la différence, c'est que si je l'avais pas fait en 5 minutes, j'aurais eu mon effet, effectivement, si j'avais acheté un preset tout fait. Mais après, j'aurais été dépendant de cet effet-là. J'aurais pas compris les mécanismes qui sont derrière pour être capable de refaire ce preset-là. J'aurais pas pu l'adapter comme je voulais à mes projets. Maintenant que j'ai compris comment faire ça, je peux faire vraiment un truc ultra customisé. Je peux régler, j'ai compris les principes, etc. Et j'ai un contrôle beaucoup plus grand dessus. Et c'est la même logique, du coup, tu vois, en guitare, c'est que. Si tu prends tout le temps des presets, effectivement, mais qu'après tu te mets vraiment à décortiquer, à en faire pour comprendre, ben voilà, quel va être l'impact du compresseur, pourquoi on le met à tel endroit de la chaîne, pourquoi l'équaliseur va t'apporter telle chose, si tu le règles comme ça ou comme ça, qu'est-ce que ça peut t'apporter de mettre ta reverb en insert ou en send, qu'est-ce que ça change si tu cumules deux délais avec des réglages légèrement différents, etc. Comprendre un peu à quoi servent les effets, pourquoi on les utilise, comment on les utilise. En fait, une fois que tu comprends ça, tu as vachement plus de possibilités que si tu te bases tout le temps sur des presets. Parce que le problème des presets, c'est qu'à un moment donné, c'est comme la théorie versus le feeling, hein, c'est qu'à un moment donné, si tu arrives à trouver un truc qui est bien, mais que tu comprends pas pourquoi il est bien, bah, tu es incapable de reproduire le truc. Et donc ça, c'est un peu dommage. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est toujours important de faire cette démarche, d'essayer, même si ça te prend plus de temps que d'utiliser du tout fait, c'est jamais du temps perdu parce que tu apprends des choses. Et bon, après, moi, apprendre, c'est un peu mon dada, quoi. J'adore apprendre des nouvelles choses. J'aime être indépendant, autonome quand je fais des trucs. Donc, j'aime toujours, même si je perds des temps fous, j'aime toujours vraiment apprendre les choses. Je délègue très peu parce que j'aime tout savoir faire moi-même, même si c'est pas toujours efficace. Mais d'un côté, c'est vachement enrichissant. Donc là, je pense, j'ai digressé à un point phénoménal par
Ben
rapport.
non, non, parce que non, parce que c'est vrai. C'est ce que je veux dire, c'est tout ça. C'est que si jamais, pareil, si tu comprends pas pourquoi, admettons, je ne sais pas, c'est comme on pourrait rapporter ça basiquement à une chanson. Pourquoi, quand tu es débutant, ah, mais pourquoi tous les tubes, toutes les chansons, les trois quarts que j'a, de, les trois quarts de chansons que j'apprends, il y a sol, ré, do dedans. Ben voilà, si tu comprends pas pourquoi, bon, après, ça peut. Tu peux t'en passer, hein. Je vais te dire, moi je pense pas que les mecs comme les grands songwriters, on va dire, ouais, plutôt pop, rock, soient au courant. Mais bon, un mec comme par exemple Bruno Mars, qui est pour moi vraiment un super songwriter, t'inquiète pas qu'il sait exactement ce qu'il fait. Hein, quand t'entends les harmonies, par exemple, même sur le dernier album qui est vachement soul, moi j'adore Bruno Mars. Ouais, quand tu écoutes ce qu'il compose, le gars il connaît l'harmonie, hein, puisque bon, des la basse de sol, des accords sus4 dans tous les sens, des accords altérés, des emprunts aux mineurs, des modulations dans le ton voisin, bon, il connaît le mec.
Ah
Donc
oui.
il fait ça sûrement par instinct aussi, mais pour moi, enfin, pour moi, un mec comme Bruno Mars, c'est vraiment le gars qui est capable de faire un tube, dans le sens où. Il sait identifier ce qui marche et il sait être assez visionnaire pour. Regarde par exemple son dernier album, il fait un tabac avec, c'est des trucs soul. Aucun des mecs. Moi je me souviens quand je faisais pas mal de studios. C'est vrai que j'avais un ami à moi, un très bon ami avec qui je travaillais, qui s'appelle Steve, qui était chanteur, qui était issu d'un collectif de musiciens qui faisait beaucoup de rap, d'électro, de house, etc. Et par le biais de cet ami-là, les mecs galéraient en studio pour avoir des prises de guitare. Parce qu'en fait, ils connaissaient pas forcément de musiciens, enfin, du moins peu. Et que, bon, bah, Steve m'a introduit dans ce milieu-là. Donc c'est pour ça que j'ai fait pas mal de studios pour des trucs de rap, des trucs de trap, des trucs house, etc. Et les mecs, ce qui me frappait à chaque fois que j'allais dans les studios ou les home studios ou même puisqu'il bossait dans une radio à l'époque, dans les locaux de la radio, il y avait toujours la télé allumée pour voir ce qui marchait en fait. Mmh. Actuellement, tu vois, avec
ouais, c'est de la veille, c'est ce qu'on appelle la veille technologique, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est en fait pour voir ce qui marchait, donc pour faire des sons adaptés à ce qui marchait en temps réel. Bon, ouais. Moi, un peu bêtement, je leur ai dit, ouais, mais bon, les gars, vous pensez pas que si tu l'as sur ta télé, c'est que c'est mort, c'est déjà passé. Donc c'est peut-être, il faut peut-être anticiper, non, plutôt que de regarder ce qui marche. Tu vois. Et puis non. Mais néanmoins, c'est ce que fait un mec comme Bruno Mars. Il anticipe la tendance, voire même il la crée.
Il la crée, ouais.
Tu vois,
moi j'aime bien. Mars, ça repart, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est vrai que le Mars est bon avec cette mousse au chocolat et du caramel, et enrobé d'une coque de chocolat encore. C'est vrai que.
Il y a rien de pire. Culture pub.
Voilà, mais et en fait, ces mecs-là, bon, moi j'adore Timberlake, Justin Timberlake, j'adore Bruno Mars. Ces mecs-là créent des tendances.
Ouais.
Quand t'écoutes par exemple, je sais pas moi, la musique de Troll, ou même les albums de Timberlake, enfin tu te dis bon, le gars il crée une tendance. Il cherche pas à juste recopier ce qui a été fait. Mmh. Il cherche dans par exemple, tu prends l'album 2020 là, c'est le dernier vraiment que j'ai écouté, que je connais vraiment par cœur de Timberlake. T'as une chanson pour tout. T'as du club, t'as du funk. T'as limite du jazz fusion, t'as de la pop, t'as du rock, t'as de la balade, t'as du rap. Enfin, tu vois, comme ça, t'es sûr de toucher tout le monde. Et quand t'écoutes les titres de Bruno Mars, il y a à l'intérieur des chansons, et je vous dis, faites attention à ça, sauf dans le dernier avec Silky Sonic ou je sais pas quoi là. Écoutez les titres de Bruno Mars, il y a dans chaque titre, il y a un truc pour plaire à tout le monde. Pour faire du club, pour plaire aux gens qui font du club. Pour plaire aux gens qui écoutent du rap, pour plaire aux gens qui écoutent, qui sont issus du rock 70. Enfin, c'est vraiment le métissage de toutes les musiques, quoi. C'est vraiment, ouais. C'est-à-dire, c'est du songwriting, c'est-à-dire l'art de faire un tube et de toucher le maximum de gens. Par exemple, vous pouvez écouter aussi BTS. BTS, le groupe de K-pop qui est en train de cartonner mondialement.
Ouais, la sœur de ma copine est fan.
Voilà, ce que je veux dire, c'est que dans les morceaux, il y a pour plaire à tout le monde. Il y a toujours un petit truc qui va te rester ancré dans la tête, des petits sons ou des petits thèmes ou des trucs. Ils mettent en valeur chacun des chanteurs qui ont un peu des voix différentes. Il y en a un qui a vraiment une voix de femme. Il y en a un qui a une voix un peu cassée. Il y en a un qui a une voix passe-partout. Il y a le mec qui rappe, il y a le mec qui fait du raga. Je veux dire, c'est fait pour plaire au plus grand nombre et ça marche. Voilà. D'ailleurs, tu regarderas, et c'est même au niveau du visuel, c'est fait comme ça dans les clips. Ils ont plusieurs couleurs de cheveux, ils sont habillés différemment.
Il y a une dimension très marketing aussi.
Ah oui, monstrueuse. Ouais. Sachant que je crois que c'est. Je sais plus de combien j'avais lu le truc, parce que le label de BTS, le jour même où ils sont rentrés en bourse, ils ont été valorisés à 8 milliards. De dollars. Ça s'appelle Big Hits, je crois, label. Et je crois que ça a fait augmenter le PIB carrément de la Corée, quoi. le groupe. Tu vois, la Corée du Sud. Voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est malgré tout, ça fait partie pour moi de la créativité, même si tu. Moi j'écoute pas BTS toute la journée, moi j'écoute parce que les enfants ils adorent, mais quand j'écoute, c'est vachement créatif. C'est la production à ce niveau-là, pour moi, fait partie de la créativité, puisque le matériel musical est tellement basique. Hein, je crois que leur plus grand tube, il me semble, c'est mi do dièse mineur, fa dièse mineur 7, si 7. On revient sur. C'est même pas si 7, c'est si tout court. Tu reviens sur mi. Voilà, c'est vraiment. C'est vraiment basique, le matériel musical est basique, mais c'est tout ce qui est arrangement, en fait, qui rend en fait la dimension énorme, quoi.
Ouais.
Donc, c'est clair. Effectivement, si jamais tu pratiques du jazz fusion 15 heures par jour, t'as pas l'idée de faire ça. C'est-à-dire, pour en revenir à ce que tu disais par rapport aux chiptunes, c'est-à-dire que la contrainte et la simplicité de la chose a obligé les gens à être créatifs.
Ouais.
C'est-à-dire que j'en avais déjà parlé dans le podcast, mais prends par exemple les enfants, tu vas leur acheter la dernière grosse boîte de Playmobil et tout, ils vont jouer 5 minutes avec. Tu leur achètes une petite boîte, et ils vont s'amuser à faire des meubles avec le carton, ils vont être créatifs. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que des fois, la simplicité force la créativité.
Ah oui, parce que tu dois trouver des. Tu dois. En gros, on est toujours en train d'essayer de tirer le maximum de choses du minimum. Et ça, c'est valable en dehors de la musique. Même quand tu fais que tu fasses de la peinture, du dessin, de la vidéo ou quoi que ce soit, dès que tu as des moyens limités, bah, tu regardes le. Moi, j'aime bien ces exemples-là quand tu regardes tous les courts-métrages, par exemple, de films d'horreur à petit budget. T'en as qui ont cartonné. Justement, parce qu'ils avaient des moyens ridicules, bah, genre le projet Blair Witch, c'est un des films les plus rentables de toute l'histoire du cinéma. Je sais même plus combien il a coûté d'ailleurs. Attends,
500 $.
le film était quasiment improvisé, les dialogues étaient improvisés, et il a, du coup, ils avaient un budget super limité. Tu vois, bah, c'était 300 000 USD, hors USD, je sais pas ce que c'est
US$.
comme devise. Ok, donc je ne sais pas combien ça fait, mais bon, il a rapporté des millions et des millions, quoi. Donc il a explosé carrément en termes de rentabilité. Et il y avait énormément, du coup, de moyens réduits, quoi. Juste pas trop de scénario, juste une forêt, donc un lieu très réduit, peu de personnages, etc. C'est pareil, il est Paranormal Activity, c'est aussi un des films les plus rentables de tous les temps, où c'était aussi ultra, ultra réduit, quoi, comme budget. Ils ont filmé dans la maison du producteur. Enfin,
Alors que j'ai vu par exemple Moonfall que je voulais aller voir parce que moi j'adore ce genre de film où t'en prends plein la vue, j'ai vu que c'était le plus gros bide de ces 10 dernières années, il me semble. J'ai lu un article où en fait il s'est cassé, enfin ça a coûté, ça a été, les dépenses ont été astronomiques, c'est le cas de le dire. Et en fait le film Moonfall, donc le principe du film, c'est que la lune tombe sur la Terre en fait.
Oui, j'avais vu passer ce scénar, ouais.
Donc bon, enfin, et c'est en fait, c'est que là, bah, ça les a pas empêchés. Il y a eu des gros budgets, mais ça les a pas empêchés de faire un bide. C'est un peu comme te
Ouais,
dire.
bah c'est comme Waterworld avec Kevin Costner. À l'époque, c'était un des films qui a coûté le plus d'argent. Il a fait un four monumental.
Ah ouais? Ouais.
Ouais.
Ah ouais.
Pourtant, le film est pas non plus si mauvais, mais en tout cas, voilà, il a fait un bide complet,
Je
quoi.
crois que je l'ai vu, mais bon, il m'a pas marqué outre mesure, quoi. Mais
Oui,
c'est
c'est
vrai
pas non plus un
que.
film exceptionnel.
Regarde, par exemple, si t'as, on va prendre pour des gens qui font un peu du jazz ou qui improvisent, par exemple, tu prends So What, où tu as un accord qui est en suspens, enfin qui monte à un demi-ton et qui revient. Et après, tu as Giant Steps ou Countdown, où en fait, tu as deux accords avec modulation tous les deux temps. Ben, la créativité, tu es vachement plus le plus, en fait, les contraintes sont. Comment dirais-je? Plus ça demande de la technicité et du travail, et moins t'es créatif finalement.
Ouais,
Voilà, c'est ce
bah,
que c'est un peu.
c'est qu'aussi, t'es plus, tu développes mieux les choses, tu vois. Par exemple, je prends l'exemple de la composition. Le défaut que je vois chez tous les débutants en composition, c'est le syndrome Dream Theater. C'est-à-dire que Dream Theater sans le talent. C'est-à-dire que la plupart des débutants, ce qu'ils vont faire, ils vont trouver une idée A, donc genre un riff, ils vont le faire tourner. Puis après, vu qu'ils savent pas comment en sortir, vu qu'ils savent pas comment développer, vu qu'ils savent pas quoi faire d'autre, bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent une idée B, ils vont le coller ensuite au bout de leur riff de départ. Puis après, ils se retrouvent dans le même mécanisme, ils se retrouvent bloqués, ils savent pas quoi faire, donc ils trouvent une idée C, etc. Et en fait, c'est un enchaînement comme ça, A, B, C, D, E, E, de trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ou qui ont un petit peu à voir. Et ça forme voilà, tu vois, des compositions itératives comme ça, où t'as pas vraiment de logique, contrairement à un Dream Theater, où eux, ils font cette logique-là, sauf qu'ils le font de manière intelligente, parce que eux, même si quand t'écoutes un morceau de Dream Theater, ça paraît complètement déstructuré des fois, où tu te dis ouais, ça part d'une ambiance à une autre, bah, en fait, si t'écoutes bien, des fois, tu te rends compte que quand t'es arrivé à 7 minutes du morceau, bah, en fait, ils sont en train de te rejouer le motif qu'ils ont joué en introduction, mais qui a été entre-temps, il est passé en ternaire avec le tempo dédoublé, ou je sais pas quoi, où il a changé de mode. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a des rappels, qu'il y a des choses qui reviennent, qui sont développées, etc. J'analysais avec un élève hier le morceau Dance of Eternity. Dans le
Oui,
Send from,
c'est la
from New
9.
York,
Ouais.
voilà, ça, la 10 même, je crois. Enfin, en tout cas, c'est le morceau instrumental de l'album qui est énorme, rien que pour le solo de clavier type cabaret bar qui est énorme. J'adore ce morceau. Et du coup, voilà, tu te rends compte, notamment dans le final, Petrucci, il a un plan où il utilise plein de techniques de développement que tu retrouves chez des compositeurs, genre Philip Glass et compagnie, où en gros, il te fait un pattern qui est en... Je crois qu'il est en 3-4, il me semble. Il me semble qu'il est en 3-4. Et en fait, il va te le répéter, mais la deuxième fois, il va t'enlever deux notes. Et du coup, après, il te remet le pattern d'origine. Après, il va rejouer le même pattern, mais cette fois, il va rajouter quatre notes. Et en fait, il va prendre les quatre dernières notes du motif principal. Il va les mettre au bout, puis il va les diminuer d'un demi-ton. Après, il va revenir au pattern principal. Après, le pattern, il change de vitesse. Il passe au début, ils le font sous une forme en croche. Après, il passe en double croche. Et en fait, il y a plein de variations. Ils font genre 2 minutes avec ça, quoi. Et le meilleur exemple que j'ai chez eux, c'est le morceau. Je sais pas si tu le connais, le morceau The Mirror de
Oui,
Dream Theater. C'est
ouais.
dans l'album Awake.
Ouais.
Je trouve que c'est
C'est la
l'introduction de
7.
morceau la plus épique. Parce que t'as Petrucci qui te joue un accord de si.
Ouais, trois doubles. Ouais.
Voilà, trois doubles avec. Voilà, c'est
Tout,
ça.
tout, tout, tout.
Trois doubles, mais avec un 16e de soupir. Et du coup, là, le pattern en lui-même, il est tout le temps identique, sauf qu'en fait, c'est la batterie qui recontextualise tout le temps. Des fois, ça passe en 4-4. Et après, tu vas avoir le pattern qui passe, je crois, en 12-8. Après, à un moment donné, il y a du 2-4. À un moment donné, le tempo accélère. Et en fait, tu n'es
Oui,
jamais avec
après il le fait
les
en
mêmes
sébarré,
pulses.
en
Oui.
fait, oui.
Ouais, après, donc tu as toujours la pulse qui change, et en fait, c'est toujours un accord qui est répété avec toujours la même logique, trois notes répétées, un
De toute
silence.
façon, au niveau de la composition, et c'est marrant que tu en parles parce que j'ai réécouté un peu les albums avec Mancini.
Mangini, ouais.
Bon, c'est vrai que je. Bon, c'est vrai que c'est. Bon, c'est monstrueux, hein, franchement, c'est monstrueux. Au
C'est une
niveau.
machine de guerre, le mec.
Bon, lui, moi j'aime moins que Portnoy parce que Portnoy il
Ouais,
avait
pareil.
vraiment un son, etc. C'est vrai, c'était vraiment le. Enfin voilà quoi, c'était vraiment le batteur qui a fait le son du groupe aussi. Donc, et c'est vrai
Claire,
que.
puis il a le groove. Mangini, je le vois un peu comme Ivan Drago dans Rocky 4, tu
Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. C'est un. Ou alors, je pourrais même te mettre. Ivan Drago, mais dans Expandable plutôt.
Oui, ah oui, effectivement, ouais. C'est exactement ça.
Voilà, tu vois. D'ailleurs, quel film de merde, quoi. Franchement, t'en veux de la
Mais...
non-créativité, là, franchement. Je suis sûr
Ah, mais...
ils ont écrit le scénario, au
Je les
fur
ai
et à
vus au
mesure du
ciné, moi,
film.
les Expendables, c'était énorme. Quand tu
Voilà.
vois tous les, quand tu vois Chuck Norris là, quand tu vois, il y a Jean-Claude Van Damme qui a participé. Ouais. Je l'ai pas vu, celui où il y a Jean-Claude Van Damme, par
Ouais,
contre.
moi non plus, j'ai pris le 1 avec. Ouais, c'est tellement. Ouais, c'est vrai que c'est mythique, hein. Ouais, c'est mythique parce que
C'est clair.
t'as. Voilà, c'est
Bah,
mythique parce que
c'est un
t'as.
crossover, c'est une sorte de Marvel, mais des, mais de,
Des films
des films d'action, quoi.
de seconde zone, quoi.
Voilà.
C'est les feux de l'amour version violent, quoi.
C'est du Marvel en fait, c'est pas du Marvel mais du Marvel.
Et en fait, ouais. Ben pour revenir à Dream Theater, ouais, donc c'est vrai qu'au niveau de la composition et tout, c'est tellement monstrueux. Et puis c'est leur truc. Par exemple, il y a je ne sais plus dans quel truc, il y a le Shrink and Grows riff. Tu sais, en fait, où en fait, je crois qu'ils commencent par 4 fois le riff, 4 fois le riff, 4 fois le solo, 3 fois le riff, 3 fois le solo, 2 fois le riff, 2 fois le solo, 1 fois le riff, 1 fois le solo. Et après, ça fait l'inverse. 2 fois le
Ouais.
riff, 2 fois le solo, etc. Enfin, il y a plein de trucs. Et notamment c'est un peu Jordan Rhodes qui a transcendé Dream Theater, quoi. Je veux dire, c'est parce que l'album avec Derek Sherinian, bon, il est moi je l'aime pas, c'est celui sûrement que j'aime le moins. J'aimais beaucoup
Ah,
avec Kevin Moore,
même si c'est, ah oui, Kevin Moore,
c'est le premier.
ouais. Il y a d'ailleurs un morceau que j'adore de Dream Theater qui est Space Divest, avec l'intro de piano super mélancolique là. Il est top ce morceau. Je sais plus dans quel album il est par contre, mais c'est Kevin Moore qui avait composé ça.
Comment tu dis? Ah oui.
Space Divest.
Oui, non, non, c'est.
C'est un morceau où il n'y a pas une goutte de shred. T'as la guitare qui se contente de faire des power chords, et puis c'est surtout du piano. C'est vachement beau comme morceau.
Et même dans. Comment ça s'appelle? Dans. Comment ça s'appelle? Dans Liquid Tension Experiment et dans tous leurs trucs satellites, hein, dans Transatlantique. Bon, c'est avec. J'en parlais une fois de l'album de. Testimony, cet album Testimony avec Neil Morse, voilà, Neil Morse, le frontman issu de Spock's Birds, voilà. Non, Spock's Bird, pardon. Et en fait, mais tu te rends compte aussi que, par exemple, même si là, on peut pas, là, tu vois, on va à l'inverse, parce qu'on peut dire, là, tu peux pas dire que la pratique tue la créativité, puisque les mecs, si tu pratiques pas comme un malade et que ça fait pas 20 ans que tu fais ça, tu as du mal à être dans
Oui,
une esthétique pareille.
c'est sûr. Il y a une
Cependant,
contrainte de style.
et puis je pense que. Et je pense que c'est à l'alchimie, parce que par exemple, j'ai écouté justement, par curiosité, j'ai écouté l'album de Petrucci solo. C'est boring, quoi, tu vois, c'est
Ouais.
vraiment.
J'ai pas écouté, moi. J'écoute
Bon.
assez peu les albums solo des artistes en
Mais en
général.
fait, tu te rends compte que quand tu fais ça, t'es pratiquement toute ta vie après obligé de faire ça, quoi. Par exemple,
Oui.
tu vois, je vois mal Petrucci, par exemple, sortir un album ou devenir guitariste de studio ou sortir un album, par exemple, bah tiens, je vais composer un album de chansons acoustiques et en fait, c'est tout, quoi.
Ouais.
Tu vois?
Ouais.
Parce que je pense que ça te demande aussi une discipline presque. D'ailleurs, tu vois
Bah,
que c'est un gars
c'est sportif de haut
discipliné.
niveau, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, le gars, bon, tu vois, ça se voit avec avec lui-même. Tu vois, sa
Ouais.
barbe, elle est taillée. Il n'y a pas un poil qui dépasse. Tu vois que le mec, il fait de la muscu depuis des années. Enfin, de la
Ouais.
muscu, mais la muscu efficace, je dirais. C'est-à-dire, c'est pas, je trouve pas que ce soit de la gonflette parce que c'est une baraque maintenant, le gars. Quoi.
Ouais.
Mais rien que tu vois sa barbe, tu sais que le gars, bon, le mec, il est carré dans la vie.
C'est pour compenser les cheveux qui perdent sur le crâne.
Voilà. Mais en fait, oui, ça demande.
Ouais, il y a une rigueur, ouais, c'est clair.
Et
Bah, ça
puis.
se voit que c'est un mec qui est extrêmement rigoureux. Quand tu vois un peu comme il expliquait, comme il bossait, comme il a bossé la guitare, comme il était déterminé. Tu vois aussi dans sa vidéo Rock Discipline, elle s'appelle Rock Discipline, c'est pas pour rien.
Oui. Non, c'est vrai.
C'est un mec carré, quoi, c'est clair.
Ouais,
C'est pas
c'est.
un Malmsteen, quoi. C'est l'opposé complet du style Malmsteen, quoi.
Mais c'est vrai que, putain, et je vous le dis aussi en parlant de Malmsteen, ça me fait penser que j'ai vu, parce qu'il est en train de beaucoup poster sur sa chaîne,
Ouais, je vois régulièrement les trucs, j'ai encore
voilà,
regardé
il
hier.
fait des vlogs et il a invité Stevie dans un vlog,
Ouais.
et en fait le gars, il invite Stevie en interview en gros, mais il parle que de lui pendant
Oui.
une heure, quoi. Et même Stevie,
Normal.
à un moment donné, bon, tu vois que Stevie, c'est ce qu'il se dit en fait.
Ouais.
Tu vois que Steve, il essaye de. Il est un peu plus. Ouais, c'est. Non, il est pas un peu. Il est beaucoup plus subtil que notre gros porc suédois,
Ouais,
tu vois.
tu m'étonnes.
Mais. Ouais, le gars, en fait, en fait, il invite chez lui, sur sa chaîne Steve, pour faire venir l'audience à Steve. Il parle de lui pendant une heure, quoi.
Ah bah, tu vois, Steve Vai, c'est vraiment le mec hyper raffiné, tu vois, alors que Malmsteen, c'est un peu le mec radio bière foot, quoi.
Non, c'est Ferrari Bierfoot.
Ouais, Ferrari bière foot.
Enfin bon, bref. Toujours
Ouais.
est-il que, oui, toujours, pour en revenir à. D'ailleurs, t'as qu'à voir après. Je me demande, tu vois, je me demande dans leur process, tu vois, ça serait intéressant de voir un peu les process de création, en
Ouais,
fait, tu vois,
c'est clair.
parce que
Je me suis.
je sais que Steve Vai, par exemple, quand il compose. En fait, quand il compose un morceau, il s'entraîne à improviser des heures et des heures. Il enregistre au fur et à mesure. Et je vais y faire
Ouais.
un hommage à
Ah, même
Malmsteen.
si.
D'ailleurs, les amis,
C'est
petite
l'air
parenthèse,
suédois.
on vous prépare un podcast spécial Malmsteen intitulé Chemise à jabot et braguette ouverte. Donc, et
On
en
va se
fait.
replonger dans la musique,
Ouais, voilà, il faut se replonger
dans le
dans l'œuvre
folklore suédois.
dans l'œuvre de Malmsteen pour bien pouvoir la commenter.
Ouais.
Voilà, je sais qu'il s'entraîne à improviser en boucle et après il réapprend son morceau après pour le jouer en live.
Ouais. Bah, c'est ce qu'il expliquait, c'est comme ça qu'il avait composé For the Love of God, par exemple. Le morceau, c'est juste un collage des meilleurs impros qu'il ait fait, en fait. Donc, il expliquait qu'il laissait tourner le truc, il improvisait, puis il gardait juste bout par bout, puis en fait, il a fait le morceau en collage.
Mais c'est vrai
Donc,
que cet album, là, il y a une vidéo, puisque je sais, enfin, D'ailleurs, c'est un Français qui s'appelle Pascal, mais dont je me souviens plus le nom, puisqu'on en parlait dans Passion and Warfare, mais
Pascal
l'album,
le
il
grand
est...
frère.
Pardon? Non, je
Petite
connais.
référence télévisuelle.
Ah non, je connais pas. Je connais pas, malheureusement. Enfin, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas.
Oh, je pense que on peut dire heureusement.
Mais c'est vrai que... qu'est-ce que... Du coup, oui, c'est vrai que tout est... C'est quand même niveau du son, niveau... toutes les petites guitares rajoutées, les overdubs, etc. Il y a quand même une créativité
Ouais.
monstrueuse, quoi. Qui l'a perdue à un moment donné, je trouve. On va dire un peu après, ouais, après Fire Garden avec Ultrason et tout, et qui récupère là sur le dernier album. Tu vois, je pense que peut-être il a été un peu plus. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que ça a mis un coup de créativité quand même la pandémie, en
Bah,
fait.
quand tu regardes, tu as les deux morceaux qu'il avait fait, celui Candle, je sais plus comment il s'appelle, là, le premier qu'il avait mis sur Facebook, et puis l'autre qu'il a fait avec le bras dans le plâtre, c'est les meilleurs exemples de créativité, justement, parce que déjà le morceau où il avait un bras en vrac, forcément, ben, il avait une contrainte instantanée, c'était qu'il pouvait utiliser que sa main gauche, quoi. Donc forcément, ça l'a amené à composer d'une certaine manière. Et surtout, l'autre morceau aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est clair que ça se voit que son idée principale, c'était les bends sur accord, quoi.
Oui.
Et pas le bend basique sur toutes les notes de l'accord, mais travailler vraiment le bend sur une des notes seulement de l'accord, etc. Et c'est l'idée directrice de tout son morceau. Donc, encore une fois, c'est le choix d'une contrainte qui a été super créative.
Ouais, et puis bon, ouais, c'est vrai qu'il est monstrueux. Moi, je trouve
Ouais.
qu'il est...
Bah, il arrive encore à être créatif
Il le joue en une
malgré tout ce
prise,
qu'il
quoi.
a fait.
Il
Ouais.
le joue en une prise, puisqu'il le dit...
Contrairement à Malmsteen qui est plus trop créatif, tu vois, justement, si on devait comparer les deux, Steve Vai aujourd'hui, il est quand même toujours au top, quoi.
Ouais, et puis il y a une question d'ego, puisque à un moment donné, si vous regardez ses vlogs, il le dit aussi, il le dit, à un moment donné, tu te sens le maître de l'univers. Et après, tu te reprends, en fait, tu veux, tu te prends des claques, des remises en question, alors que... quand t'as... Je pense pas que Malm Sim ce soit un gars qui se remette souvent en
Non,
question.
je pense pas.
Voilà, tu vois. Et après, mais après, c'est aussi pour ça que tu les aimes, les gars. Tu vois, c'est un peu bête à
Oui,
dire, mais si
c'est clair.
excuse-moi, si par exemple Jean-Claude il se mettait à faire du film d'auteur, bon, ça le ferait
Ouais,
pas.
non.
Nous, ce qu'on veut voir quand Jean-Claude, c'est du grand écart facial, des mawashigeri, tu vois,
Et
des
puis
vannes pourries.
des citations épiques.
Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois,
Non, mais c'est clair.
c'est voilà, c'est un peu comme voilà, Chuck Norris, pareil, tu le
Oui,
verrais pas
voilà.
dans un film à l'eau de
Un film
rose.
romantique, ouais.
Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit tourné à la dérision avec un final à la nuit en
Oui.
enfer, tu vois. C'est-à-dire que
C'est
le mec, tu vois, le mec,
clair.
il est transi, tu sais, c'est l'amoureux, le calme et tout, puis à la fin, il éclate tout le monde,
Ouais.
et même les gars à coups de tronçonneuse et tout, tu vois. Il arrête les tronçonneuses à la main, là, comme dans le
C'est...
mime, tu sais. Le gars, il arrête la tronçonneuse à la main, tu sais, le bûcheron qui s'attaque à la forêt, tu
Ouais.
sais.
D'ailleurs, petit aparté, mais si vous connaissez pas, allez voir sur internet les Chuck Norris Facts.
Ouais.
C'est le truc le plus épique. C'est un peu une forme de même écrit autour de la personne de Chuck
On peut
Norris.
en donner
Voilà.
une quand
Oui, bah, un
tu...
des plus connus, c'est par exemple Chuck Norris a compté jusqu'à l'infini deux
Oui,
fois.
voilà. Et ou par exemple,
Et celle-là, elle est belle quand
quand
même.
Chuck Norris vient chez toi, tu es l'invité de Chuck Norris.
Oui. Ah, je la connaissais pas celle-là. Non, mais attends, je vais lire quelques-unes parce que ça vaut le coup. C'est un truc à connaître, vraiment. Donc, c'est le site chucknorrisfacts.fr. Donc, il y a par exemple, je ne la connaissais pas celle-là. Chuck Norris peut faire un habit avec un moine.
Un habit?
Un habit avec un moine, ouais, parce que l'habit fait le moine. Tu comprends?
Ouais, un peu trop. Elle était pas assez, tu vois, elle était trop
Ah,
subtile.
c'est pas une des meilleures, c'est une récente là, mais les ennemis des amis de Chuck Norris sont ses amis, et oui, les ennemis de Chuck Norris n'existent plus. L'avenir se demande parfois ce que Chuck Norris lui réserve. Celle-là, elle est énorme. Chuck Norris n'a pas de père, on ne nique pas la mère de Chuck Norris. Allez, un petit dernier pour le. Attends, j'en lis deux parce que le suivant est mémorable. Le premier, déjà, Chuck Norris ne ment pas, c'est la vérité qui se trompe. Et celui-là est quand même. Mais en fait, tu as envie de jamais t'arrêter de les lire. Chuck Norris peut ressusciter un angle mort. Et le dernier, pour le plaisir, Chuck Norris ne se masturbe jamais. Chuck Norris est inébranlable.
Oh là là, c'est du
Un
lourd.
petit festival, voilà. Allez voir ce site, il est vraiment ultra épique.
Il faudrait qu'on fasse les.
Il y a la version anglaise, en fait, où il y a les plus connus, je crois.
Les Malmsteenfacts.
Ouais, mais c'est clair.
Je pense qu'il faudrait le faire, quoi.
C'est clair.
Donc voilà, quoi, pour la créativité, quoi. Donc c'est vrai
Oui.
que de trop pratiquer. Et puis ça fatigue le cerveau. Donc quand t'as le cerveau frais.
Ouais, puis des fois aussi, le problème, c'est que quand tu pratiques trop, tu peux tomber dans le côté. Alors, tout dépend ce que tu pratiques. Si tu pratiques trop de manière en plus focalisée sur un truc, genre, je sais pas, tu es dans une période où tu veux développer à mort une nouvelle technique que tu es en train d'apprendre et que tu, voilà, tu es pendant un mois, tu fais que ça, des fois, il peut aussi y avoir la frustration qui s'accumule parce que tu vois pas forcément les progrès. Tu peux avoir de l'énervement et ça peut des fois être même contre-productif. Et il y a parfois certains élèves qui vont se dire qu'ils ont l'impression qu'ils ne progressent plus. Et en fait, ce n'est pas qu'ils ne progressent plus, c'est que souvent, c'est une progression qui est trop lente pour être visible sur des courtes périodes. C'est des niveaux de progression que tu peux visualiser que sur des échelles genre de 6 mois, 1 an ou autre, ou en tout cas plusieurs mois. Et du coup, il faut un certain temps de recul. Parce que autant tu as des notions, genre je sais pas, aller mémoriser l'accord de mi mineur, voilà, c'est une notion qui est hyper facile à infuser. Par contre, quand c'est des choses qui touchent à la précision des mouvements, sur une technique, sur voilà, des choses vachement profondes, où vraiment s'approprier à un mode, des choses comme ça, ça va demander un temps d'infusion plus long. Tout simplement pour être vraiment intégré dans ton jeu, dans ta façon de penser la musique, etc. Et ça, c'est pas un truc que tu peux acquérir en 3 jours, ni même en une semaine, ni même peut-être en un mois, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps de travail. Et ça, quand tu pratiques beaucoup, beaucoup en étant focalisé sur le fait que voilà, il faut que je progresse, il faut que je progresse, etc., et que tu vois pas les progrès arriver, ben ça peut, voilà, comme je disais, être contre-productif et te faire perdre la motivation. Donc, je trouve que c'est bien des fois justement de prévoir des phases d'alternance où tu laisses des choses reposer, tu y reviens plus tard, etc. Le temps de justement laisser les choses reposer, infuser tranquillement, pour qu'après elles te paraissent plus claires. Et moi, ça me l'a fait tout le temps dans mon apprentissage, des moments où je vais apprendre des trucs. Sur le moment, j'ai du mal à comprendre le truc. Puis des fois, j'y reviens un an après, 6 mois après, etc. Et je me dis, ah ouais, en fait, c'était évident et je ne comprends même pas qu'à l'époque, je ne comprenais pas ça. Parce qu'entre-temps, tu vas bosser d'autres sujets, tu vas bosser d'autres trucs. Et en fait, vu que tout est interconnecté, des fois, quelque chose que tu vas apprendre à côté va te servir à mieux comprendre quelque chose que tu étais en train de travailler avant, tu vois. Donc, c'est toujours.
Après, ça me semble fou de rester un mois. Tu vois, moi, quand c'est bête, hein, mais quand je pratique, par exemple, sauf bon, dans un cas technique, par exemple, je vais pas bosser que ça, quoi, parce
Oui.
que.
Mais moi, on va dire ça, c'est des cas extrêmes. Mais par exemple, moi, je l'ai fait quand je débutais la guitare sur certains trucs. J'ai passé focalisé sur la technique des mois et des mois à faire que ça. Genre même pas à prendre une position d'accord, à faire que de l'aller-retour, que bosser la technique pure pendant des mois sans faire quoi que ce soit d'autre. Aujourd'hui, je sais que c'était une grosse connerie, mais voilà. Mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé vraiment très souvent. Ou des fois de bosser des morceaux de Malmsteen, justement. Je me souviens qu'il y a des fois, je me réservais des étés entiers où j'avais genre 3 morceaux. Et l'été entier, j'avais fait ça un été, 8 heures par jour pendant tout l'été, je bossais 3 morceaux de Malmsteen. Il y avait Trilogy, Arpeggio from Hell, et puis le troisième, je ne sais plus ce que c'était. Non, c'était pas un Malmsteen, le troisième, mais je ne sais plus ce que c'était, c'était un autre morceau. Donc j'avais bloqué un été où 8 heures par jour, je bossais que ces morceaux-là, et j'ai fait que ça, que ça, que ça. Tu vois. Bon, ça arrivait de temps en temps dans ma vie de guitariste, quoi, mais c'était pas non plus systématique. Mais j'ai eu des périodes comme ça où j'ai bossé de manière ultra intense des trucs, et je m'en suis pas lassé forcément.
Et c'est vrai que, par exemple, je reprends je crois que c'était une interview de Rick Beato, là, où en fait, il interviewait Pat Metheny. Et Pat Metheny disait qu'avant un concert, par exemple, il s'échauffait 3 heures, mais qu'il ne faisait pas une seule ligne. C'est-à-dire qu'il faisait que des exercices pour être vraiment chaud et arriver sur scène. Il disait par exemple que lui, limite, il ferait même pas de son check, tu vois, pour vraiment avoir la fraîcheur sur scène. Bon,
Je
après,
vois.
c'est pas de Metheny, tu vois.
Ouais.
Mais que.
Il fait du digital, quoi.
Voilà, du pur digital,
Ouais.
brainless, quoi, limite, tu vois.
Ouais. Bah, c'est ce que Michael pas Michael Romeo, Michael Angelo expliquait aussi. C'est que lui, avant les concerts, il se contente de faire des chromatismes à tempo modéré. Parce qu'il se dit que la vitesse, il l'a, donc il n'a pas besoin il a pas besoin de s'échauffer à jouer vite avant, parce qu'il sait que la vitesse, elle viendra quand elle viendra, et qu'elle viendra s'il est suffisamment échauffé, et du coup, pour pas brusquer les muscles, les mains, etc., il y va tranquillement sur juste des chromatismes pour pouvoir échauffer chaque doigt de manière égalitaire, quoi, finalement. Et voilà.
Sachant que, bon, pour. C'est vrai que, tu vois, je repense à Pascal Vignier qui, à un moment donné, j'avais vu une vidéo où il disait qu'à un moment donné, pour dépasser des caps de vitesse, il faut que tu forces la vitesse.
Oui.
Et tu vois, ben, malgré tout, des fois, il y a, ce que je vais dire, c'est un peu bête, mais il y a des jours où je suis d'accord et puis des jours où je me rends compte que, ben, par exemple, notamment avec cette histoire de Hammer from Nowhere, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup. Pratiquer cette technique puisque je l'avais pas, on va dire que ça fait un an, un peu plus d'un an que je la pratique réellement et que je l'utilise du coup maintenant réellement. Et du coup, bon, c'est vrai que j'ai constaté une nette amélioration dans le phrasing, dans le doigté et même dans le toucher tout court, même sans parler
Ouais.
de Hammer from Nowhere, de Legato quoi, hein, même en truc. Et c'est vrai que ben, c'est bête, mais je suis jamais plus rapide que quand j'ai bossé lentement quoi. C'est un peu paradoxal, mais par exemple, pour vraiment bah, ce truc de Hammer from Nowhere, parce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée. Quand je dis ça, je dis pas ça. Il y a vraiment une réelle valeur ajoutée au niveau du son, au niveau du. De la. C'est fluide et en même temps détaché, quoi. Et donc, ça permet vraiment d'aller plus vite, même si au début, ça peut te sembler handicapant, mais en vérité, ça peut te sembler. Ça peut. Parce que ça. Comment dirais-je? Ça implémente certains doigtés, etc., même de Mediator. Et puis en fait, c'est vraiment. Ça peut t'aider en fait à aller beaucoup plus vite réellement que du legato en pulling off. Parce que
Ouais.
après, tu. Notamment quand tu changes de corde, et tu peux même faire du Hammer from Nowhere en changeant de corde sans réattaquer la note. Et du coup, ça te permet d'économiser un coup de Mediator, en gros.
Ouais.
Donc ça peut vraiment. Et c'est vrai que. Alors, pour
Mine de rien,
force.
ça te permet aussi d'exercer l'index, parce que souvent l'index en legato, c'est celui qui est le plus faible, parce que souvent il se contente de rester posé, et c'est les autres doigts qui font les effets de legato, que quand
Voilà.
tu fais le Hammer from Nowhere, l'index, c'est comme le tapping main gauche finalement, l'index, tu t'en sers énormément.
Et je dois dire que vraiment, même ça améliore ton toucher, quoi. Il n'y a pas. C'est vrai, ça améliore ton toucher.
Ouais.
T'as un meilleur contrôle, t'as un toucher
Bah,
beaucoup
en fait,
plus.
t'as un toucher plus pianistique, finalement, parce
Oui,
que
voilà.
ton geste est vraiment proche de ce que va faire un pianiste sur les touches.
Voilà, donc c'est vrai que. Moi, je. C'est vrai que j'ai tendance à bosser vraiment lentement quand je bosse. Voilà.
Ouais, après, je pense que ce que disait Pascal là-dessus, c'est surtout quand tu touches vraiment des paliers de limite, des paliers de limite, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, des paliers de vitesse sur lesquels tu bloques et que tu n'arrives jamais à dépasser. Je trouve c'est. Moi, j'arrive à comprendre son conseil parce que si je fais le lien, par exemple, avec la musculation, imaginons que tu arrives à porter 15 kilos, par exemple, et puis qu'après, tu t'entraînes toujours à 15 kilos, 15 kilos, et que tu fais jamais au-dessus. Ben, en fait, tu crées pas de défi vraiment pour ton corps.
Et tu
Et
sais,
du coup, tu
après.
t'obliges pas ton corps à développer les mécanismes pour te permettre d'aller au-delà. Tu vois, c'est aussi un peu cette logique-là, c'est qu'à un moment donné, si tu veux atteindre des vitesses que tu n'arrives pas à atteindre, il faut à un moment donné être conscient de quelle est la sensation que ça a quand tu es à ces vitesses-là.
Bah,
Moi,
après,
j'ai souvent
c'est
fait
tout
faire ça à des
dépend.
élèves.
C'est tout dépend ce que tu. Bon, pour la musculation, par exemple, c'est tout dépend ce que tu recherches. Par exemple, moi, je suis pas un mec qui va. Déjà, parce que tout le monde. T'as pas de référentiel en musculation, par exemple. Moi, par exemple, d'être hyper baraqué, genre Schwarzenegger, j'en ai rien à cirer. Moi, ce que je veux, c'est optimiser les capacités de mon corps sans prendre de produits à la noix à côté ou de compléments, machin truc, mais d'optimiser en fait les capacités de ton corps. C'est-à-dire que tu le vois, par exemple, quand tu vas à la muscu, t'as des mecs qui sont absolument pas musclés.
Ouais.
Mais qui soulèvent 3 fois plus que toi, alors qu'ils ont moins, et finalement ils paraissent physiquement moins baraqués que toi. Mais ils font très peu de répétitions. Alors que moi, par exemple, c'est l'inverse. Moi, je sais quels sont mes poids on va dire limite, et souvent ça tourne autour de mon poids de corps, tu vois. Et au lieu de mettre plus lourd, je fais plus de répétitions, plus de séries. Parce
Ouais.
que, en fait, ce que je recherche, c'est plus une endurance et une optimisation de ma propre masse musculaire, naturelle, que de soulever. De soulever lourd, tu sens que c'est plus de l'ego que de l'efficacité. Parce que dans ta vie de tous les jours, ce que tu fais à la
Oui.
musculation, ce ne sont pas des mouvements naturels.
Ouais, je
Tu
suis
comprends?
d'accord, ouais. Oui.
C'est-à-dire que c'est pas parce que, si ça se trouve, moi, on va dire que, je sais pas, prends par exemple des carreaux qui pèsent très lourd de 1 mètre carré sur 1 mètre carré, tu sais, des carreaux pour carreler. Bon,
Ouais.
c'est pas parce que tu soulèves au développé couché une série de une répétition à 100 kilos que tu vas arriver à soulever des carreaux, parce que c'est hyper lourd, je te le dis, parce que ça m'est arrivé d'aider un ami qui faisait des travaux chez lui, et donc il installait des carreaux de 1 mètre sur 1 mètre. Je te dis, c'est très lourd et ça surprend quand tu le prends le truc.
Ouais.
Eh ben, c'est pas parce que tu soulèves 100 kilos développé couché que tu vas arriver à facilement soulever les carreaux, parce qu'en
Oui,
fait,
c'est des questions de contexte.
c'est les questions de contexte et de mouvement. C'est-à-dire que les mouvements que tu fais à la muscu, je suis désolé, le développé couché, c'est pas le même mouvement réellement que les pompes. Tu vois? Ça fait pas travailler le muscle de la même façon. Pareil, quand tu travailles ton dos pour écarter, par exemple, quand tu veux travailler ton dos, parce que nous, je sais qu'on a des carences à ce niveau-là physique, quand on fait beaucoup de guitare ou qu'on est beaucoup assis, il faut qu'on se remette droit. Le but, c'est
Ouais.
pas de soulever des masses de kilos, le but, c'est de te remettre ton dos dans une position qui est convenable, c'est-à-dire de te redresser, par exemple. Tu vois? Pareil, quand tu veux faire de la presse avec les jambes, à quoi ça te sert de pousser 200 kilos avec tes jambes, si ce n'est que soit pour faire le cake, soit pour d'être bodybuilder sur Instagram. Sinon, à quoi ça te sert dans la vie de tous les jours? Essaye de faire 50 squats à vide avec ton propre poids. Je peux te garantir que, même si tu es sportif, moi je suis quand même vachement sportif, je cours pratiquement tous les jours, je fais quand même beaucoup, beaucoup de sport. Je peux te garantir que 3 séries de 50 squats, ça te met une bonne claque dans la tête quand même. Hein. Et rien qu'avec ton propre poids. Alors que, tu
Ouais.
vois, à la presse, je pense que je pourrais soulever plus que 100 kilos avec mes jambes, mais à quoi ça me sert? Si tu veux. Tu fais grossir le muscle dans un truc qui est pas. Et pour la guitare, c'est pareil. À quoi ça sert de travailler un exercice rapidement si cet exercice-là, tu ne le mets pas en contexte de jeu?
Oui. Oui, on l'a souvent dit que les exos pour les exos, ça a aucun
Voilà.
intérêt.
Sauf pour. Et si jamais tu travailles un exo sur la guitare pour atteindre, par exemple, pour renforcer, je ne sais pas moi, par exemple, la force, on va dire la force, j'aime pas ce mot-là, parce qu'il n'y a pas de muscle dans la main, mais la force entre l'annulaire et on va dire l'indépendance et le contrôle de l'annulaire et du petit doigt, à quoi ça sert de travailler tes exercices rapidement? Au contraire. Tu vois? Donc, je pense qu'il y a des gens, on n'est pas tous égaux d'un point de vue physique. Parce que déjà, on n'a pas du tout les mêmes tendons, les mêmes ligaments, etc., etc., les mêmes ossatures, et même le même système nerveux. Et je pense que ça se joue plus, la rapidité se joue plus au niveau du cerveau et de l'envie de partir d'un point et d'arriver à un autre. Et notamment dans le contexte, on en revient à ça, c'est-à-dire que on est souvent beaucoup plus rapide. Moi, je suis beaucoup plus rapide quand je joue. Quand j'improvise et que je phrase, que quand je fais un exercice, quoi. Tu vois? Autant je pense que je peux facilement
Ouais, c'est en
atteindre.
même temps, ça me paraît logique. C'est parce que quand tu phrases, c'est des choses qui sont
Voilà,
du
c'est
coup des
ça.
phrases naturelles pour toi.
Voilà, c'est ça.
Que, alors que quand tu fais un exo, ça, c'est pas forcément des phrases que tu auras écrites, que tu auras improvisées. Donc, du coup, il y a peut-être pas la fluidité naturelle que tu aurais dans quelque chose que toi tu vas naturellement sortir sans même y réfléchir. Là, parfois dans l'exercice, tu vas être obligé un minimum de réfléchir, peut-être parce que c'est un doigté que tu as moins l'habitude de faire ou que c'est une position que naturellement, spontanément, tu n'aurais jamais faite, etc. Et du coup, forcément, ça impacte la vitesse.
Et même je vois, parce que là, bon, par exemple, hier, j'ai relevé deux, trois phrases de Sylvain Luc en accord. Plutôt que de répéter les phrases avec le clic, tout ça, j'ai directement trouvé un contexte. Et tu apprends et tu digères beaucoup plus vite. Alors après, ça arrive dans différents stades de ta vie de musicien, de pratique même. J'ai envie de te dire que t'es pas même. T'es pas, même si ça fait 30 ans que tu joues de la musique, si t'as jamais pratiqué ta vie, mais par exemple que tu joues très bien du blues, en fait tu sais pas pratiquer. Et tu connais pas la façon dont tu dois pratiquer toi. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une expérience de la pratique, parce qu'il y a des contraintes, notamment bon, ben, quand tu es obligé d'être intermittent du spectacle ou que tu es obligé de jouer de plein de morceaux, de plein de musiques différentes alors qu'elles ne t'intéressent pas forcément, tu es obligé de repratiquer, de réapprendre, 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 parce que tu ne joues pas du funk et du blues et du jazz et du rock, et etc. de la même façon, même de l'acoustique, etc. Donc en fait, le fait que tu sois obligé d'être polyvalent, et donc ça, c'est contre-productif pour la créativité, finalement, de s'être rempli aussi, tu vois, pour en revenir à notre créativité, de se remplir de trop d'informations, ben, ça tue la créativité, quoi. Encore une fois, c'est un peu comme si tu me disais, ben, quand t'as les enfants, bon, après, moi, j'ai par exemple mon fils qui est un peu différent parce qu'il a plein de jouets et est tout le temps en train de jouer à plein de trucs différents. Donc ça, c'est un mauvais exemple vis-à-vis de lui, mais quand finalement, quand t'as tout, tu sais plus avec quoi jouer finalement. C'est un peu bête, mais tu sais plus quoi faire, tu sais plus par où partir.
C'est pour ça que j'ai que deux guitares, tu vois. Parce que si j'en avais 50 dans ma pièce, je ne saurais jamais laquelle prendre.
Ouais, moi, après, tu vois, des guitares, j'en ai plein, mais c'est par nécessité, par exemple, tu vois. Et c'est vrai que je joue. Je ne suis pas un geek guitare, tu vois. Je ne suis pas. Hein, de toute façon,
ouais, moi non plus.
On se le dit souvent. On prend ce dont on a besoin, mais.
Ouais.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi ce truc de trop connaître de choses, et on le disait dans la théorie versus la créativité, c'est vrai que ça, à un certain stade, ça peut te porter préjudice finalement dans la créativité, de trop connaître de choses, d'être trop érudit, de trop connaître de modes, de gammes et tout. Au final, tu sais plus où piocher, puisque bon, après.
Je sais pas là-dessus, je suis pas convaincu quand même de ça, parce qu'après c'est qu'une question de justement te mettre des contraintes, parce que si tu connais énormément de choses et qu'après tu as envie d'être créatif, tu sais que tu as plein d'outils à disposition, bah, il faut juste sélectionner un outil puis aller là-dedans. C'est comme si tu vas bricoler et que tu as un mur entier d'outils, bah, tu en prends un puis tu fais ton truc avec ça, mais à un moment donné, il faut choisir. C'est le principe quand tu es créatif, de toute façon, quand tu es compositeur, c'est ça, et quand tu es créatif, c'est de toute façon ça, peu importe ce que tu fais. La base de la base de la base, c'est juste faire des choix. C'est rien d'autre que ça, que tu sois sculpteur, peintre, ce que tu veux, c'est faire des choix. Donc faire des choix de l'outil que tu vas utiliser, faire des choix pour nous musiciens de la gamme, de la progression d'accords, du son, du nombre d'instruments que tu vas utiliser, du style musical. Enfin, tu passes ta vie à faire que des choix en fait. Et à un moment donné, je pense que même si tu connais énormément, même le mec qui connaîtrait le plus de choses théoriques au monde, bah, à un moment donné, après, pour être créatif, suffit de cibler sur certaines choses. Parce que c'est la même chose que la porte ouverte, c'est quand on te dit ta carte blanche pour faire, genre je sais pas, t'as un client qui vient vers toi puis qui dit oh, voilà, je voudrais un morceau, vous avez carte blanche. Peut-être tu dis ce serait un cas, bon ça arrive jamais un cas comme ça ou très peu, mais ça c'est un cas qui est infernal, qui est horrible, que le mec
moi franchement ça m'est arrivé plein de fois, ça m'arrive plein de fois, voilà hein, moi, il me disait le style et après, il me disait « Ouais, fais ce que tu veux. » Là, c'est torché en 10 minutes, quoi.
Et si le client te donne complètement carte blanche, bah après, toi, tu peux potentiellement faire n'importe quel style de musique, n'importe quelle durée, choisir n'importe quel instrument. En fait, tu as une telle possibilité que ça te donne finalement encore plus de risques de faire quelque chose qui risque de ne pas lui plaire. Parce que même si les gens disent « Je vous donne carte blanche », en réalité… ils ont quand même une idée précise en tête et ils vont te dire non, ça finalement ça me plaît pas, etc. Alors que quand ils te donnent une direction ultra claire, genre je veux un morceau funk à tel tempo avec tel instrument, etc., et tel thème par exemple, bah, là tu es tout de suite avec un guide et c'est beaucoup plus facile d'être productif et de terminer un truc rapidement. Et c'est pour ça que je dis que le fait d'avoir cette carte blanche, c'est plus un frein. Sauf si tu cibles. Et c'est la même chose si du coup tu as une énorme quantité de connaissances, bah, il suffit de cibler sur un aspect qui te plaît tout simplement, puis de te lancer à créer avec ça. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des gens qui sont en panne de créativité parce qu'ils connaissent trop de choses. Moi je pense que c'est ceux qui sont souvent en panne de créativité, c'est plutôt ceux qui ne connaissent rien ou pas assez.
Oui, non, c'est. Oui. Après, ou alors que parce que tu en fais trop aussi.
Oui, après, ça peut arriver que tu sois en panne de créativité parce que tu es dans une phase trop intense où tu as composé énormément de trucs et puis qu'au bout d'un moment, tu as l'impression de tourner en rond et c'est justement le bon moment de faire la pause de pratique pour te ressourcer ailleurs et recommencer à être inspiré.
Oui.
En réalité, je pense qu'on est toujours créatif. La seule différence, c'est que tu es plus ou moins inspiré. Et ça, c'est pas pareil. En fait, tu peux créer des choses. On peut toujours trouver des idées. Après, certaines, elles vont aux chiottes et certaines, tu les gardes. Moi, tous les jours, je compose des nouvelles idées. Tu en as les trois quarts que j'utilise pas parce que je me dis c'est pas assez costaud, c'est trop banal ou c'est pas assez travaillé, etc. Mais ça n'empêche pas d'être créatif. Soit créatif, c'est juste que tu inventes des choses. Mais après, ça veut pas dire que c'est forcément qualitatif.
Oui, non,
Donc
c'est
je
vrai.
pense que c'est plutôt ça, c'est plutôt après arriver à aboutir aussi à quelque chose de qualitatif. Et finalement, c'est ça quand tu pratiques trop, c'est pas que tu es moins créatif, c'est que tu es moins qualitativement créatif en fait.
Oui, c'est vrai. Ouais, en fait, oui, c'est vrai. Et puis aussi recommander de vous mettre un peu des images inspirantes, etc. à la maison, pas
Ouais, ah, t'as raison, ça, c'est clair.
Des tableaux, des rideaux. Quand tu es un homme célibataire, des fois, il y a des choses que tu oublies, mais en fait, tu t'apprécies, tu te dis, oui, bon moi, j'ai une super vue, donc j'ai pas besoin de mettre de rideaux, mais c'est des genres de trucs que tu te dis quand tu as 15 ans, 16 ans, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elles ont, les femmes, avec leurs rideaux et tout ça? Et puis, en fait, tu te dis, non, mais en fait, c'est important. Bon, sur ce, les amis, je pense qu'il est temps de nous mettre 5 étoiles. Voilà.
Ouais,
Après ce podcast en digression, hein.
c'est clair.
Hein, puisqu'on n'a pas pu enregistrer la semaine dernière, faute de trouver des créneaux, etc. Donc il est temps de nous mettre 5 étoiles. Voilà. 5 étoiles sur
Et un
Apple
petit
Podcast.
commentaire
Un petit
aussi.
commentaire sympa qu'on
Est-ce qu'on en a
lira.
eu? Ça fait longtemps que je suis pas
Non,
allé sur
non,
la
je
page.
crois
On a
pas.
eu. Ah bah alors, qu'est-ce que vous attendez?
Non, non, on n'y est pas. On n'y est pas. Voilà. Voilà, donc il n'y a pas de nouveaux
Ah si,
commentaires.
si, on a quand même une note en plus. On était à 111, on est à 112 notes.
Ah bon, c'est beau, ça
Donc
progresse.
il y en a eu quand même une.
Sinon, section lifestyle, Cyril, de quoi tu vas nous parler cette semaine? Quelle nouvelle cire d'épilation tu utilises maintenant?
Écoute, une cire suédoise. Mais en fait, finalement, moi, pour la section lifestyle, c'est un petit peu dans la continuité de ce que j'ai parlé tout à l'heure. C'est que je suis un peu dans les univers visuels en ce moment. C'est un peu ça qui m'inspire, tu vois, le côté sculpture, le côté vidéo, montage. Voilà, je suis en plein look rétro VHS et puis l'envie de me mettre à la sculpture. Là, il faut que j'achète du coup de la pâte à modeler spéciale, là, des matériaux. Bah, mon pote m'a conseillé deux trois trucs à acheter pour commencer à faire des petits dioramas. Donc je vais m'entraîner déjà à mettre en application ce que j'ai appris en dessin avec lui. Donc je vais commencer déjà à m'exercer à faire des murs, à faire des sols, à faire des choses comme ça, des petites choses pas trop complexes. Et avant de faire vraiment une scène complète, puis de me mettre à la résine. Donc là, c'est un peu mon trip en ce moment. Je suis à fond sur les esthétiques comme ça, un peu rétro-horrifique en ce moment. Parce que je t'en avais parlé en off là, pour mon autre chaîne YouTube qui est consacrée justement à la musique spécialisée sur l'horreur. J'ai découvert un peu les nouveaux concepts d'horreur collaborative qui sont apparus sur Reddit, là, notamment les backrooms. Alors ça n'a rien de sexuel, c'est pas les backrooms là. C'est l'autre type de backroom. Mais en gros, voilà, c'est un nouveau concept horrifique. Et il y a un jeune YouTuber de 16 ans qui a fait une vidéo, qui a fait 20 millions de vues et qui a fait un court-métrage justement basé sur cet univers. Le mec, il est super talentueux. La vidéo, elle est super cool. Et du coup, voilà, je vais produire des musiques pour des concepts comme ça. Et du coup, j'ai envie de. Tu vois, je regardais des tutos. Je regardais la semaine dernière des tutos Blender pour apprendre à faire des piscines, à faire des bâtiments, des architectures, etc. Un peu dans les styles qu'il y a dans cet univers-là. J'avais envie de me remettre à la 3D parce que j'avais appris à faire de la 3D sur 3DS Max quand j'étais en master. Et depuis, j'ai plus trop pratiqué. J'avais fait un court-métrage en 3D, mais bah, ça fait genre 10 ans que j'ai pas ouvert un soft 3D. Donc en gros, mon niveau, il est retombé à zéro, quoi. Donc voilà, j'avais envie de me remettre un petit peu à faire des choses comme ça. Puis tu vois, juste pour des questions aussi d'emmerdement YouTube-esque, c'est-à-dire que voilà, pour éviter que YouTube nous fasse chier avec la monétisation et compagnie, je suis en train de réfléchir pour toutes mes chaînes où je diffuse de la musique, comment je peux faire pour avoir mes propres contenus vidéo, pouvoir produire moi-même les vidéos, parce que c'est ça qui est chiant, je trouve, sur les contenus comme on fait nous, tu vois, les backing tracks, les trucs comme ça, c'est que bah, forcément la musique c'est nous qui la créons, là-dessus il n'y a pas de souci, mais après tu te retrouves toujours à être obligé d'illustrer ça parce que voilà, YouTube c'est quand même de la vidéo avant tout. Donc tu te dis, ok, bah, je vais prendre des images libres de droit. Puis en fait, visiblement, il y a quand même des emmerdes même avec ça. Tu vas prendre des vidéos libres de droit, mais pareil, on vient de faire chier parce que finalement, ça va pas quand même. Donc tu te dis, à un moment donné, il faut que je crée mon propre contenu. Mais bon, ça fait quand même chier de devoir se mettre à faire de la vidéo alors que ton but premier, c'est de faire des backing tracks de musique, tu vois. Mais bon, voilà, je suis en train de réfléchir
Après,
un
moi,
petit peu aussi.
le fond des backing tracks, c'est moi qui le crée, par exemple. Hein, ça. Après, j'ai des... moi, dans les
Je parle
autres.
plus pour les choses un peu, tu vois, genre relaxation, ou comme je fais moi pour les musiques d'horreur, etc. Je prends du coup, là, les premières, par exemple, ça va, j'avais pris. Il y avait un mec qui avait recréé le premier niveau de Silent Hill en 3D un peu plus propre et qui avait mis la démo gratuitement. Puis du coup, j'ai pris sa démo, je l'ai installée. Puis en fait, j'ai filmé mon écran pendant que je faisais des prises du jeu. Puis j'avais demandé l'autorisation de pouvoir utiliser ça, etc. Mais bon, voilà, ça fait quand même chier parce que c'est pas ton contenu réellement. Même si c'est moi qui ai fait la vidéo dans l'absolu, mais ça reste. Le jeu en lui-même a été fait par le gars en question, quoi. Donc, c'est vrai que c'est toujours chiant d'être dépendant de choses que tu peux pas créer toi-même, quoi. Puis c'est vrai que j'ai pas envie forcément de déléguer ça, de payer à chaque fois que je dois faire une vidéo quelqu'un qui va me faire un fond ou qui va me faire un truc, quoi. Ça fait un peu chier. Donc voilà, tu vois, là, en ce moment, je suis en train de remettre les mains dans le cambouis visuel, puis de me dire, faut que je trouve un truc qui me permette de faire moi-même les vidéos et de pas être emmerdé pour ces questions de monétisation. Donc voilà, c'est la réflexion lifestyle en ce moment.
Ouais, et puis ouais, ben moi écoute, j'ai pas grand-chose à raconter, si ce n'est que bon, bah j'ai lu deux bouquins ce week-end, parce que je suis toujours en train de lire Sapiens, mais comme je suis allé voir mes enfants ce week-end, j'ai pas pris Sapiens vu que c'est un pavé dans mon sac. J'ai pris le bouquin d'Idriss Aberkane, là, le deuxième, L'économie de la connaissance, qui est vraiment bien, qui se lit vraiment très vite aussi. Et j'ai pris quoi? Les deux vies de Chopin, c'est. De Frédéric Chopin, voilà, c'est deux bouquins qui sont vraiment bien. Et niveau lifestyle, après, je sais pas trop quoi dire. Je sais que, bah voilà, y a rien de spécial, quoi. Rien de spécial. Tout va bien, tout va bien. C'était juste pour dire que tout allait bien.
Ben c'est déjà bien, c'est déjà très bien.
Bon, bah sur ce, je pense qu'on peut les laisser. Après qu'ils nous aient laissé 5 étoiles sur le podcast, parce
Ouais,
que.
il y en a peut-être encore deux, trois qui sont en train de courir ou en train de conduire jusqu'à leur boulot, mais bon, faut attendre la semaine prochaine, les gars, tant pis.
Voilà, ou
Ou va falloir lancer un autre
sinon
épisode.
une petite bande d'arrêt d'urgence, tu mets 5 étoiles
Voilà.
et puis tu vas au
Puis
travail. Voilà. Et
voilà.
tu souris. Voilà.
Fier du devoir accompli.
Voilà, c'est ça. Allez les amis, ciao.
À la semaine prochaine,
Ciao.
bye.